Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre des passages de la parole de Dieu. Cette parole de Dieu est importante, c'est une lumière sur notre chemin, particulièrement dans des moments plus obscurs où, à vue humaine, on n'y voit pas bien clair. Cette parole de Dieu est semée sur des terrains assez variés. Et j'aimerais voir avec vous comment elle est tombée sur le terrain de l'humanité de notre frère Hubert Marie. Alors je vais me limiter à trois facettes. La première, vous me pardonnerez un peu, elle est tombée sur un terrain plutôt volcanique, on va dire. Ensuite, cette parole, c'est le lieu où privilégié où Dieu nous manifeste sa volonté, ce qu'il attend de nous. Et en fait, cette parole a apporté divers fruits dans l'humanité de notre frère Hubert Marie. Et dans chaque fois, j'essaierai de vous donner trois encouragements parce que sur notre route, elle est longue et quelquefois on a tendance à se décourager. Alors, voilà. Alors, qu'est-ce que je veux dire dans le premier point ? C'est le plus délicat, hein ? Mais que la parole de Dieu est tombée sur un terrain plutôt volcanique. Je ne veux pas enjoliver les choses, parce qu'au bout du compte, ça nous empêcherait de voir le vrai mérite de notre frère. Alors, notre frère savait se montrer très affable, mais ce n'était pas toujours le cas. Comme le faisait remarquer quelqu'un, malgré sa rondeur, il ne manquait pas d'aspérité. Son écorce nous paraissait quelquefois un petit peu rugueuse. Pardonnez-moi, hein, mais après je viendrai à des choses plus positives. Mais lui, ce n'était pas du tout une statue sulpicienne en plâtre, là, pas du tout. C'était pas un volcan éteint, voilà, endormi, non. Et justement, précisément, il avait conscience d'avoir quelquefois des réactions trop brusques qui blessaient son entourage. Et ça l'humiliait. Il savait en demander pardon à l'occasion. Comme il avait une grande sensibilité, il n'était pas du genre à rester impassible devant ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Alors il réagissait vivement quand il percevait quelque chose qui n'était pas juste, ou qui défiait le bon sens, ou encore quand il avait l'impression d'être jugé ou utilisé. Et donc, ça a été le lieu d'un véritable combat dans sa vie. C'est trop facile si on pense que tout est gagné d'avance. Mais dans sa vie, c'était vraiment un lieu de combat qui était difficile, parce que quelquefois, il pouvait se laisser submerger par ses angoisses, ses émotions. Pour ça aussi, qu'il affectionnait le psaume 129, « Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. » La parole de Dieu, elle ne tombe pas sur un terrain idéalisé, mais sur un terrain concret, celui de notre humanité. Et c'est précisément dans ce terrain concret qu'elle déploie sa vitalité. Ça rejoint l'expérience fondamentale, l'expérience typiquement chrétienne que saint Paul a exprimée quand il parle de son écharde. Par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alors je pense que c'est un premier encouragement que nous donnerait notre frère Hubert Marie, de ne pas nous décourager. Vous aimez certainement parfaitement vous-même. Mais il arrive que des gens aient beaucoup de mal à s'aimer eux-mêmes, aimer leur physique, leur caractère, on prend plein de choses, leur histoire. Et comme dit Saint-François de Sales, Si tu ne pars pas de là où tu es, tu n'arriveras nulle part. C'est partir de notre humanité. Dieu prend notre humanité et il nous travaille avec notre humanité telle qu'elle est, pas telle qu'on la rêverait, mais telle qu'elle est. Et je pense que c'est un premier bel encouragement que nous donne notre frère. Parce qu'après, il peut y avoir de la fécondité. Mais s'il n'y a pas ce premier pas, on accepte la réalité, ça devient compliqué après. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième, c'est que la parole, c'est un lieu privilégié où Dieu se révèle et Dieu nous manifeste aussi sa volonté. Et ça, c'était un vrai repère pour notre frère. Et c'est pour ça aussi, sans doute, qu'il avait une appétence particulière pour la spiritualité ignatienne de Saint Ignace de Loyola. Il s'est formé à plusieurs reprises chez les jésuites pour apprendre à discerner et à accompagner ceux qui s'adressaient à lui. Encore en mai dernier, il était en retraite dans une maison tenue par les jésuites. Ça, c'était quelque chose qui était très important. Et le passage d'évangile qui a été choisi, qui vous déroutait peut-être un petit peu, c'est pas forcément si simple d'accueillir la volonté de Dieu. Et notre frère avait besoin de temps, de silence, pour discerner d'abord cette volonté, et après pour l'accueillir vraiment. Et c'est pour ça que prendre du temps gratuit dans la prière, c'était quelque chose de tout à fait essentiel pour lui. Et hier soir, dans la petite veillée qu'on a vécue, en mémoire de lui, quelqu'un rappelait justement que il aimait se lever tôt, il avait réglé son réveil de bonne heure pour avoir le temps de se nourrir la parole de Dieu avant même de venir au Lode, etc. Ça c'était quelque chose de tout à fait essentiel. On ne peut pas discerner de sous pression, on a besoin de prendre du temps et d'avoir un espace pour discerner. Alors, accueillir cette volonté de Dieu, quelquefois, ça se fait dans la joie. Il était très heureux d'aller à Notre-Dame de France. C'est quelque chose qui lui parlait bien et il s'enthousiasmait pour ce projet. Dans d'autres situations, c'était plus difficile quand il a fallu quitter la maison d'Haute-Marsagne où il s'était beaucoup investi, où il avait noué beaucoup de belles amitiés. Ben, c'était plus difficile. Mais c'est comme ça dans notre vie. Il y a des moments où accueillir la volonté de Dieu, c'est facile. D'autres moments, c'est plus compliqué. Mais en même temps, alors ça, c'est un homme droit. Une fois qu'il avait discerné la volonté de Dieu, alors il avançait avec détermination et courage. C'était pas un homme qui restait à des paroles. C'était un travailleur, un homme du concret. Et en ça, il suivait bien Saint Joseph, qu'il aimait beaucoup aussi. Vous vous rappelez sans doute dans les premiers chapitres de l'évangile de Saint Matthieu, il y a une sorte de refrain qui revient au moins à trois reprises. Quand Joseph se réveilla, lui, Dieu lui parlait par des songes, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, quand Joseph se réveilla, il fit faire ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Et donc, Père Hubert Marly, c'était pas un homme à se tâter le pouls toutes les deux minutes. Il était animé par une foi profonde, avec une grande loyauté. Et justement, pour accueillir cette volonté, il était attentif. Et je pense que c'était un cap aussi dans sa vie à vivre dans le présent, dans l'instant présent, et pas rester prisonnier du passé. Alors, c'est un deuxième encouragement qu'il me semble que notre frère peut nous donner, c'est cultiver un grand désir de connaître et d'accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est là aussi que nous trouvons notre vraie fécondité. Troisième et dernier point que je voulais relever, c'est que la parole de Dieu, donc qui tombe sur un terrain bien concret, la parole de Dieu qui nous exprime la volonté de Dieu, mais cette parole, elle porte du fruit. Et je vais citer quatre fruits, il y en aurait sans doute beaucoup d'autres, mais quatre fruits assez caractéristiques que la parole a pu porter dans le comme fruit dans la vie de notre frère. Premier fruit, c'est les amitiés. Père Hubert-Marie savait nouer de belles amitiés et plusieurs personnes nous ont témoigné de la manière dont il était proche alors qu'elle traversait des moments très compliqués. C'était quelqu'un de fidèle en amitié. C'était une amitié humaine d'abord, très désintéressée, et en même temps, bien sûr, parce que ça faisait partie de lui, et il était soucieux de la destinée éternelle de ses amis. Un deuxième fruit, qu'on a relevé aussi, mais c'est son émerveillement devant la création. C'est pour ça que ça vous avait peut-être été un peu étonné à la place du psaume. Nous avons chanté le cantique de l'Apocalypse, chapitre 4 et 5, parce que dans ce cantique, il est dit « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance. Pourquoi ? C'est toi qui créas l'univers, tu as voulu qu'il soit, il fut créé. » Et Père Hubert-Marie aimait beaucoup admirer. Il avait un œil de lynx, il a un talent d'observation particulier. Du coup, il s'intéressait à plein de choses, mais entre autres, les arbres fruitiers. Je ne sais pas combien de centaines d'arbres il a planté dans sa vie, mais les abeilles, mais beaucoup d'autres choses encore. Mais la création, c'est quelque chose qu'il passionnait. Et au-delà de la création, c'était le Créateur, celui qui a fait toutes ces belles choses. Alors ça, c'est un deuxième fruit, c'est cet émerveillement et cette... il savait lire aussi de la beauté de la création. Troisième fruit que je relèverai, c'est les conseils avisés et délicats qu'il pouvait tenir. Je l'ai souligné peut-être un peu lourdement, mais quelquefois dans la vie quotidienne, il pouvait être un peu brusque. Mais comme par contraste, c'était plus du tout le même homme quand il était dans la posture du confesseur ou du conseiller. Là, il savait faire une preuve d'une grande délicatesse et beaucoup de discrétion. C'est aussi pour ça que nous avons choisi la première lecture sur le premier cantique du serviteur. C'est pas par hasard qu'il est rentré dans notre communauté. Bon, bien sûr, c'est une communauté mariale, mais il aimait bien ce passage d'Isaïe qu'aimait commenter notre supérieur général il y a pas mal d'années, Père André Stocklin, qui l'a formé au noviciat et qu'il aimait beaucoup, qu'il admirait beaucoup. Voilà. Et qui est compris dans cette vocation du serviteur. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Et alors, Père Hubert-Marie savait donner des conseils ajustés, plein de bon sens. Et voilà, dans cet art de l'accompagnement, il savait faire. Et quatrième et dernier fruit, pour pas être trop long, c'est ses homélies et ses enseignements. Je ne sais pas si vous savez qu'il a été dyslexique quand il était petit. Et alors, c'était quelque chose de prendre la parole en public, écrire quelque chose, c'était quand même pas, comme on dit quelquefois, il sortait clairement de sa zone de confort, hein. C'était pas. Et pourtant, voilà, il savait que c'est ce à quoi le Seigneur l'appelait. Et du coup, beaucoup nous ont dit combien ils appréciaient ses homélies, ses enseignements, parce qu'il savait s'adapter à son auditoire, il savait se rendre la parole accessible. Et alors, voilà, après ces quatre fruits que j'ai évoqués un peu rapidement, le troisième encouragement que le frère peut nous donner, c'est d'avoir confiance en Dieu. Dieu vous aime, il attend des fruits de votre part. C'est dans Saint Jean, il est dit, mais c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, dans ce troisième encouragement, vous pouvez vous porter déjà du fruit, et vous pouvez encore en porter davantage dans la mesure où la sève de la grâce vous irrigue. Alors, bien sûr, vous pouvez en porter davantage. Alors, en guise de conclusion, je ne peux pas ne pas évoquer la Sainte Vierge. Elle a toujours une grande place dans sa vie. Ce n'est pas par hasard qu'il est rentré dans notre communauté. Et souvent, il aimait bien avoir son chapelet, alors que ce soit en conduisant ou que ce soit dans sa chambre. Ou, voilà. C'était une prière qui lui tenait très à cœur. Et alors, il aimait bien aussi faire sien le Magnificat de la Sainte Vierge. Alors, nous ne pouvons que souhaiter qu'il puisse exulter en Dieu dans toute l'éternité en disant comme Marie, le puissant fut pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.